d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, voici la première émission de 2016. Et ce soir, un sujet qui peut vous surprendre, mais qui nous concerne tous, j'allais même dire qui nous concerne chacun très personnellement. Apprendre à devenir le philosophe de son existence. Nous avons déjà reçu dans cette émission deux grands philosophes. Jean-François Mathy, qui hélas nous a quittés, et puis Marcel Conche, qui vit toujours en Corrèze pour son merveilleux livre Épicure en Corrèze. Ce soir, je vais vous surprendre, probablement. Recitons cette émission dans le contexte actuel. Face aux violences, aux attentats, aux dangers, le thème de la sécurité devient dominant et même angoissant. Bien sûr, veiller à la sécurité, veiller à des mesures efficaces, pertinentes, oui. Mais la sécurité révèle et relève aussi d'un autre domaine qui est plus ou moins pris en charge, l'éducation et la culture. La sécurité, oui, rappelons-le historiquement, c'est une affaire d'éducation et de culture. Et pour cela, plus que jamais, chacun est invité à devenir le philosophe de son existence, car il est obligé, face à la surinformation, de s'interroger, de se questionner, et il ne peut pas s'appuyer sur un ou deux ou trois philosophes, sur des philosophies, mais surtout sur lui-même. S'interroger sur la sécurité, les dangers du tout sécuritaire, et sur l'apport de chacun pour sa sécurité, et ses sécurités, voilà une perspective que je retiens ce soir. Mais en réalité, de quelle philosophie allons-nous parler ? Il y a au moins, à ma connaissance, trois types de philosophie. La première, c'est celle de l'histoire de la philosophie, soit des philosophes et des idées. Elle est privilégiée par le système scolaire et n'est pas toujours la plus appropriée pour donner le goût de la philosophie, c'est le moins qu'on puisse dire. La seconde est celle des thèmes, liberté, technique, nature, bien souvent abstraites et conçues comme un jeu de questions-réponses. Et puis enfin, il y a celle sur laquelle nous allons consacrer notre temps ce soir, celle qui surgit tout simplement de mon vécu, comment mieux vivre, mieux penser, mieux appréhender la complexité et les enjeux du quotidien. Pour cela, nous allons faire d'abord un petit détour par Pierre Hadot, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui est un philosophe, qui réside en Suisse, et je vais le citer, et vous allez comprendre comment Hadot voit la philosophie. Il dit, dans l'Antiquité, par exemple, Plutarque ou Platon, on trouve avec eux une critique virulente de ceux qui se veulent exclusivement professeurs, qui veulent briller par leur argumentation et leur style, et qui se distinguent ainsi de ceux qui vivent leur philosophie. Cette même opposition se situe dans la philosophie moderne, continue Pierre Hadot. Kant, par exemple, oppose la philosophie scolaire et la philosophie du monde qui intéresse tout homme. Schopenhauer se moque de la philosophie universitaire qui, dit-il, n'est que l'escrime devant un miroir. Thoreau déclare « De nos jours, il y a les professeurs de philosophie, mais où sont les philosophes ?» C'est la question que Pierre Hadot pose, qu'il retient et sur laquelle il travaille énormément. Je mettrai dans la note de synthèse le livre de Pierre Hadot, mais vous pouvez regarder déjà sur Internet, Hadot, H-A-D-O-T, et vous verrez des choses tout à fait intéressantes. Gardons de Hadot, avant de le quitter, ces deux citations. « La philosophie ne consiste pas dans l'enseignement d'une théorie abstraite, encore moins dans une critique des textes, mais dans un art de vivre, dans une attitude concrète, dans un style de vie déterminé qui engage toute l'existence. » Et dernière citation de Pierre, « Le discours n'est que philosophique s'il ne transforme pas notre vie en mode de vie. » Voilà, Pierre se situe dans ce troisième courant et il fallait le citer. Mais nous allons tomber dans la période contemporaine et sans doute avez-vous vu, dans une revue récente, dans une émission de télévision récente, avez-vous vu Alexandre Jolien ? Et c'est à lui que dans la première partie on va s'intéresser. Alexandre a juste 40 ans. Il est né en Suisse en 1975. Il a commencé par vivre 17 ans dans une institution spécialisée pour handicapés physiques, car il est fortement handicapé physique. Puis, il se met à étudier la philosophie et le grec à l'université de Fribourg. Il se marie, a des enfants. Il écrit 6 livres sur le marché. Vivre sans pourquoi, petit traité de l'abandon, la philosophie nue, la construction de soi. Et on dit, non sans raison, que c'est le philosophe non seulement qui monte, mais c'est l'un des philosophes de la période, pour nous, de ce troisième millénaire, de ce 21e siècle. Alors, nous allons, dans un instant, découvrir des passages d'Alexandre, mais j'ai tenu absolument à vous faire entendre sa voix. Une voix, écoutez bien, qui est une voix d'handicapé, mais quelle voix ?
Pour moi, l'abandon, ça commence par la nudité intérieure, car on n'a absolument plus rien à prouver. Et pour moi, c'est peut-être difficile. D'ailleurs, je suis heureux que vous vous intéressiez à mon cas et que vous me souteniez au fil des années. Et cette fidélité me permet de vraiment m'épanouir et de m'abandonner. L'abandon, c'est pas la résignation. Quand je vais mal et ça m'arrive régulièrement, je me pose une seule question, c'est quel acte je peux poser pour aller un tout petit peu mieux. Et je crois que l'abandon, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour aller mieux, et le résultat ne dépend pas de moi. Finalement, je suis pas ligoté à ce qui va arriver, mais je suis enraciné dans ce qui arrive et ce que je peux faire. Moi, la situation avec les personnes handicapées, où je n'avais plus rien à perdre, j'avais une voix qui était plus profonde qu'aujourd'hui, où j'ai femme et enfant, et où j'ai tout à perdre. Et précisément, l'abandon, c'est à la fois la cause de ma blessure, me savoir abandonner, et le remède, s'abandonner, donner tout à la vie pour recevoir tout ce qu'elle peut nous donner. Autre chose, c'est la souffrance, la misère. Moi, j'étais invité cet été par Mathieu Ricard dans son monastère à Kathmandou, et j'ai vu clairement que le bonheur, c'était principalement deux ingrédients, la méditation, une voie spirituelle. Pour le chrétien, ça peut être la prière, mais aussi un engagement social. Si on n'est pas engagé pour l'autre, c'est un bonheur solitaire et ça vaut rien. Moi, la philo, ça m'a pas beaucoup aidé pour la vie. Et quand je trempe dans ma vie, je me jette dans la foi et je trouve beaucoup plus. Le courage, c'est l'abandon total. La philosophie, enfin, je vais m'attirer des foutres, mais c'est rationaliser le réel. À un moment donné, dans la Bible, nous est dit qu'il y a un oui et non, et j'aime bien cette crudité de la spiritualité. On ne complique pas la vie elle est déjà tellement compliquée. Et mes enfants m'aident beaucoup, la gratuité, j'apprends beaucoup des enfants. L'autre jour, je disais à mon fils, ça fait quoi d'avoir un papa handicapé ? Il m'a dit, rien, pourquoi ? Et c'était passé à autre chose. Donc, l'enfant ne veut pas réussir, il joue. Et l'autre jour, mon fils, je lui courais après comme un dératé, et il a dit, papa, rigole pas, on joue. Et pour moi, c'est un exemple d'être dans la vie. Papa, on rigole pas, on joue. On interdit aux gens de souffrir. Quand il y a ma fille qui pleure, je parle de Spinoza, Aristote et compagnie, alors qu'elle a besoin que je lui ai la peine dans les bras. Et notre société interdit à l'autre le droit de baisser les bras, de capituler. Et je crois que c'est bon, à certains moments de la vie, de capituler pour se laisser vivre par autre chose.
Voilà, je tenais absolument que vous puissiez entendre la voix d'Alexandre Jolien. Je vais retenir plus précisément quelques passages d'Alexandre. Celui-ci. Ne jamais oublier que ce sont mes fragilités qui sont la source de ma fécondité. Ou encore ce passage. Peu importe les blessures, les faux pas, le chaos, tant pis si je ne suis pas à la hauteur de mes rêves, pourvu que je garde le cap dans la joie. Ou encore ce passage. Très vite, j'eus l'intuition qu'en fuyant le handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un cinquième membre composé avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me semble primordiale. Ces livres, ces 6 livres, en voici le titre à chaque fois, car je trouve qu'il parle énormément. Le métier d'homme, éloge de la faiblesse, la construction de soi, le philosophe nu, petit traité de l'abandon et vivre sans pourquoi. Il y a un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les données d'Alexandre. Je vous le donnerai à la fin de l'émission. Je voudrais aussi retenir un entretien qui a eu lieu avec lui et je ne peux m'empêcher de vous le confier. On lui pose la question « Votre principal trait de caractère ?» Réponse « Le désir de progresser. » « Vos principaux défauts ?» « L'impatience et l'anxiété. » « Votre occupation favorite ?» « Accompagner les enfants, méditer, faire de belles rencontres et des actes généreux. » « Votre héros ou héroïne dans l'histoire ?» les héros au quotidien me nourrissent. J'aime aussi les artisans de la paix, comme l'abbé Pierre, Jésus, Bouddha sont mes maîtres. Le personnage actuel qui vous inspire, le pape François. Vos lectures, l'étonnement philosophique, ou encore d'autres livres que je vous dirai peut-être un jour. Vos films, il les mentionne, Un voyage, Jérusalem. Bref, on finit par lui poser ces questions, mais quels sont les 5 conseils que vous donnez pour mieux vivre ? Les voici. Le premier, virons l'inutile et considérons les obstacles de la vie comme des moyens habiles pour y parvenir. Deuxième idée, s'entourer d'amis spirituels, un véritable compagnon de route, ne détale jamais quand le ciel s'assombrit. Il ne se gêne pas non plus pour nous dire la vérité. Troisième recommandation, être généreux, sans se laisser bouffer par le plaisir de plaire. Quatrième, garder la capacité de se laisser toucher, émouvoir par les autres. Le risque, quand on en a bavé, c'est de se blinder, voire de se couper carrément de l'autre. Et puis enfin, le 5e conseil, ça serait de créer un dossier RAF, ce qui veut dire rien à foutre, et y glisser toutes les idées malsaines qui nous tourlupinent, les fantasmes, les illusions et les délires. Voilà une autre conception de la philosophie, bien différente de celle qu'on a pu connaître, j'allais dire, lors de sa scolarité. Voilà, si vous voulez, cette perspective, et si à ce moment de l'émission, je mets la musique La Folia, vous en comprendrez tout le sens. Écoutons cette séquence de La Folia. Si vous voulez connaître le site d'Alexandre Jolien, voici les références. www.alexandre-jolien.ch. Vous découvrirez à travers ce site quel est Alexandre, un âge jeune, qui nous invite à une toute autre conception de la philosophie. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir tout à l'heure Pierre Lemarquis. Pierre réside à Toulon, il est donc de notre région. C'est un médecin, un neuroscientifique, neurologue, il a toutes les dimensions de la neurologie, mais il est surtout musicien et il ne peut séparer la musique de la neurologie. Il vient de sortir un nouveau livre, L'empathie esthétique, dont on parlera justement avec lui dans cette deuxième partie. Et vous noterez au passage la soif de Pierre, sa curiosité, sa culture. Dois-je dire au passage que Pierre, le marquis, outre ses diplômes de médecin, de neurologue, de neuroscientifique, a fait 7 DU. Un DU, c'est un diplôme universitaire de troisième cycle, dans 7 domaines différents. Pierre dirige un festival de musique en Corse. Vous avez noté au passage qu'il a bien entendu des origines corses. On salue nos amis corses au passage. Il habite à Toulon. C'est quelqu'un d'absolument merveilleux, qui fait beaucoup de conférences. C'est quelqu'un d'extrêmement simple. Vous en rendrez compte dans quelques instants. Mais si vous voulez, pour terminer cette première partie, et volontairement, voici une autre musique, celle de David Bowie, qui nous a quittés il y a peu.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can.
Prolonger notre exploration sur le thème « Apprendre à devenir le philosophe de son existence », je vous propose un entretien avec Pierre Lemarquis, qui réside à Toulon et donc au cœur de notre région. Pierre vient de publier son troisième livre « L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange ». Pierre est musicologue et musicien, médecin et spécialiste du cerveau. 7 DU, diplôme universitaire, de la plongée à la sexologie, avec plein d'autres domaines. Pierre ne cesse de jouer, d'inventer, de créer entre la musique et le cerveau. Pas question pour lui d'étudier le cerveau sans musique, pas question d'étudier la musique sans le cerveau. Pierre est un homme cultivé, mais pétri de simplicité. Pour Pierre, l'art est thérapie. Et il nous rappelle que, quel que soit notre âge, nous possédons tous un cerveau musical qui ne demande qu'à nous aider au cours de notre existence, et qui est peut-être un instrument de musique fabuleux pour faire de la philosophie. Pierre a choisi pour la fin de cette émission Imagine de John Lennon que nous écouterons après l'entretien. Mais écoutons d'abord l'entretien avec Pierre Lemarquis. Voilà, dans cette deuxième partie d'émission, nous avons invité Pierre Lemarquis, que vous connaissez sans doute déjà, mais là vous allez le connaître beaucoup plus. Pourquoi l'avoir invité dans cette émission sur apprendre à devenir le philosophe de notre existence? Vous allez comprendre dans un instant. Pierre est neurologue, a fait 7 DU, diplômes universitaires, dans des domaines très variés qui vont de l'acupuncture au sexe. Et je vous dis que Pierre est dans ces domaines très pluriels, très ouverts. Pierre, quel est votre dernier livre ?
Empathie esthétique.
Alors de quoi s'agit-il ?
Alors c'est une espèce d'expérience. Donc le mot d'empathie à l'heure actuelle est un peu galvaudé, on le sert à toutes les sauces. Mais la première fois qu'il a été utilisé, c'était une thèse de philosophie, d'esthétisme, en 1872 par Robert Virchow. Et il employait le mot allemand « Einfühlung », le ressenti de l'intérieur. Donc pour lui, les sens nous apportent toujours des choses fausse, qu'on peut tromper. La seule chose qui soit valable, c'est le ressenti de l'intérieur face à une œuvre d'art. C'est quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà des sens. Et les dernières avancées des neurosciences lui donnent tout à fait raison. C'est-à-dire on sait qu'on a dans notre cerveau des neurones miroirs qui nous permettent d'imiter le monde. Mais s'il n'y avait que ces neurones, ce serait simplement une singerie, quoi, du mimétisme. Mais ces neurones sont reliés au plus profond de notre cerveau, au cerveau des émotions, du plaisir, de la récompense. Ce qui nous permet, devant une musique, un tableau, un livre ou une autre personne, d'entrer en résonance avec elle. Vous voyez, le ressenti de l'intérieur qui peut nous métamorphoser, nous ouvrir l'esprit, et qui est absolument essentiel dans tout processus thérapeutique en particulier.
Pourquoi esthétique ?
Alors esthétique, puisque esthétique, ça vient d'un mot qui signifie les sensations. Vous voyez, l'inverse, c'est l'anesthésie, quoi. Donc c'est ces sensations qui vont être interprétées par notre cerveau, mais le cerveau fonctionne très en amont. Au-delà, il est suprasensoriel. Vous voyez, même si on est aveugle, et on va développer d'autres sens, le cerveau va toujours en faire un sens, une signification qui va nous éclairer.
Alors vous nous invitez à découvrir les langages des arts.
Oui, alors on peut aller, bon, bien sûr, il y a les synesthètes qui mélangent un peu les sens, mais qui en font toujours autre chose. Et l'idée, puisque on a réussi à prouver par les neurosciences que, par exemple, quand on entend une musique, notre cerveau, il chante, il danse, et on va ressentir la musique de l'intérieur. Des grands artistes, même tout un chacun, quand on entend du Mozart ou si on joue du Mozart, au bout d'un moment, on peut avoir l'impression qu'il est à l'intérieur de nous. Au début, il est à côté de nous, après, il est à l'intérieur de nous. Quand on regarde une œuvre d'art figurative, si on regarde la Joconde, notre cerveau se comporte comme si on était face à quelqu'un, à une entité biologique. Donc on discute avec la Joconde, on va interpréter ses mouvements, donc elle vient également à l'intérieur de nous. Et quand on voit de l'art non figuratif, de l'art abstrait, ça a été étudié avec les toiles de Fontana, on voit cette toile avec des coups de cutter, et ben notre cerveau fonctionne comme si c'était nous qui donnions les coups de cutter. Et avec la littérature, on montre quand on lit un roman, évidemment notre cerveau va se mettre en mode lecture, c'est-à-dire une zone du cerveau très particulière qui est entre la vision et l'audition. Quand on lit, c'est comme si on voyait des images qui nous parlent. Et quand on a terminé le livre, on s'aperçoit que les zones du cerveau qui correspondent à la motricité et celles qui correspondent au sens, au tact, continuent de s'agiter, de fonctionner, c'est-à-dire que tout se passe vraiment dans notre cerveau, comme si les héros du roman étaient à l'intérieur de nous, continuaient de vivre à l'intérieur de nous, vous voyez. Donc c'est ça qu'on appelle l'empathie esthétique.
Alors finalement, l'art est une invitation à nous autoriser à être auteurs de ce que nous regardons, de ce que nous vivons, des sensations que nous accueillons grâce à l'autre.
Voilà, donc c'est déjà ce que le premier qui a dit ça, c'est Aristote, vous voyez, donc ça remonte bien
ça,
avant.
Je ne savais pas qu'Aristote m'avait précédé.
Bien avant les neurones miroirs. Bien avant Michel Bernard, Aristote nous disait que, par exemple, quand on regarde une pièce de théâtre, eh bien, on se fond dans les acteurs qui vont nous purger de nos émotions. Vous voyez ? Donc, ça a été démontré il n'y a pas très longtemps à propos du Hellfest. Les gens qui vont au Hellfest, donc un festival de musique hard rock, Curieusement, quand ils ont fini ce festival, ils sont doux comme des agneaux. Et ils ont pleuré, toute leur violence est partie sur la scène, et puis on l'a tous ressenti. Par exemple, avec Chopin, vous êtes triste, vous avez envie de pleurer, tout le monde vous a abandonné, vous vous sentez tout seul, vous écoutez Tristesse de Chopin, et Chopin vient, il rentre dans votre cerveau, il vous dit que non, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a lui, qu'il y a sa musique, qui est jolie, donc elle est belle, et quand la musique est terminée, ben, vous êtes moins triste. Chopin vous a appris un peu de votre tristesse, comme ça.
Ce qui est très intéressant chez vous, Pierre, c'est cette double dimension, musicien et neurologue ou neurosciences. Et actuellement, il faut bien constater qu'il y a une partie des neurosciences qui sont très positivistes, qui se répètent et qui pensent, à partir d'une étude, nous dire l'essentiel, alors qu'ils remettent l'essentiel, bien entendu, comme dans tout le courant positiviste, quelques années après. Vous avez ces deux pôles, ces deux lectures, on le sent chez vous, c'est très présent. Ce qui fait de vous un neurologue rigoureux, mais en même temps un humaniste rare. Comment vous réagissez à ce que je viens de dire ?
Il y a des neurologues qui ont été peut-être des précurseurs dans ce domaine. Les neurosciences actuelles ont tendance à nous dire que l'esprit naît de la matière. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Ben, il vous faut prendre de la matière, vous en faites un cerveau, il va faire de l'esprit. Mais il y en a qui ont remarqué, comme Sperry, qui a été prix Nobel pour avoir étudié des cerveaux qui étaient coupés en deux. Il dit, oui, mais d'accord, mais cette idée qui jaillit de votre cerveau, elle sculpte votre cerveau. Quand elle revient, elle va transformer votre cerveau. On pense par exemple à Glenn Gould, le pianiste canadien, donc qui ne jouait pas du piano. Il avait acquis sa technique dans sa jeunesse. Il avait une espèce de névrose obsessionnelle qui l'empêchait de mettre les doigts sur le piano. Donc il lisait les partitions, il jouait dans sa tête. Et le fait de jouer dans sa tête lui sculptait le cerveau pour avoir le programme moteur et être prêt à jouer le morceau. Et quand il se mettait au piano, le morceau était dans sa tête et pouvait être transcrit sur le piano. Donc ça, c'est un deuxième abord. Et le troisième qu'on a avec l'empathie esthétique, avec l'art, qui est prouvé scientifiquement, c'est que donc, cette peinture que vous voyez, ce livre, cette musique que vous entendez, elle vient dans votre tête, elle la sculpte, elle va la modifier, vos réseaux neuronaux. Donc c'est l'inverse de ce qu'on dit d'habitude, c'est vraiment un esprit qui va s'incarner dans votre cerveau. Vous voyez, donc certes, le cerveau fait de l'esprit, mais les neurosciences l'ont montré pour l'art, un esprit peut s'incarner dans votre cerveau, ce qui est magnifique.
Il y a donc une interaction fondamentale entre le corps, donc le cerveau, et l'esprit.
Alors, on retrouve, oui, les deux, l'un peut sculpter l'autre. Je crois que ce qu'on voit bien, c'est pas un peu cette image du yin et du yang. Vous voyez le yin et le yang. Eh bien, d'un côté, on a ce qu'on a à l'intérieur de nous, et ce qui est à l'intérieur de nous vient de l'extérieur. Quand on arrive au monde, on ne connaît rien, on ne se voit pas, on ne voit pas son reflet, on ne voit son reflet que dans le regard des autres et dans le monde qui nous entoure. Donc on va constituer notre connaissance de soi à partir de l'extérieur. Donc curieusement, on est fait par l'extérieur. Ensuite, quand on découvre le monde, on va découvrir le monde en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on aura chacun un monde à nous. C'est Kant, c'était la révolution copernicienne de Kant. Le monde, on a chacun notre monde à nous, qui est sculpté par nos connaissances antérieures. Donc, curieusement, on est comme dans le yin et yang, on est fait de l'extérieur, et ce qu'on croit être l'extérieur, c'est une projection de notre intérieur, vous voyez. Donc, et nous, on vit à la jonction des deux. Vous voyez, donc sans arrêt, on se mélange avec l'extérieur et notre intérieur. Il y a des interactions qui se passent en permanence. Et c'est dans cet entre les deux mondes qu'on vit et en quelque sorte qu'on se métamorphose, qu'on ressuscite à chaque instant. On se modifie. Là, on est un petit peu différent d'il y a deux minutes et puis on va continuer comme ça.
Dans la première partie de cette émission, je mets en valeur le fait qu'il y a trois grandes approches de la philosophie. La première, qui est la lecture des philosophes, donc l'histoire de la philosophie, de leur idée. La seconde, c'est plutôt des thèmes, c'est un peu le café philosophique, on propose un thème. Puis la troisième, c'est à partir de son vécu. Or, dans votre cas, au-delà des DU, ou par les DU, et par les DU, vous devenez philosophe aussi. Donc vous devenez un philosophe à partir de votre vécu, de ce que vous vivez. Cette philosophie vous conduit à vous questionner et à éclairer le monde déjà des neurosciences et de la musique que vous aviez par d'autres questionnements, d'autres ouvertures.
Alors là, ce que vous dites est fabuleux, parce que bon, ça a été un petit peu étudié, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de découvertes en neurosciences qui n'ont été faites que parce que le savant, le neuroscientifique, avait un philosophe en tête. Vous voyez, donc les neurones miroirs, donc la plus grande découverte de la fin du siècle dernier, Rizzolatti, était pétri de Merleau-Ponty. Il avait lu Merleau-Ponty au lycée, il adorait Merleau-Ponty, sa phénoménologie, donc en rapport avec l'histoire de l'art, et donc il ne pouvait qu'en être imprégné. Et quand il a découvert les neurones miroirs, c'est du Merleau. S'il n'avait pas connu Merleau-Ponty n'aurait jamais découvert les neurones miroirs. Il cherchait totalement autre chose, il cherchait à faire marcher les paraplégiques. Oui, donc on était loin de l'imitation du monde. Donc il les découvre parce que les découvertes qu'il a faites, il les a rattachées à un philosophe qu'il avait lu et qu'il adorait et qui a éclairé sa découverte. Sinon, la découverte n'aurait pas eu lieu. Et alors, c'est un exemple frappant, mais il y a plein d'autres histoires dans la science, dans le développement de la science, qui sont reliées comme ça. Certainement, l'idée du cerveau intellectuel et du cerveau des émotions, on est un peu chez Platon. Les gens qui ont découvert ça, je ne serais pas surpris qu'ils aient eu une formation un peu platonicienne.
Pierre, nous arrivons à la fin de cette émission. Parlez-nous de David Bowie, qui est quand même un phénomène actuel, contemporain. Comment, vous, pétri de musique, vous, pétri de neurosciences, vous réagissez à cette histoire contemporaine qui touche autour de moi beaucoup de gens?
Ben oui, ben David Bowie donc est un génie, si vous voulez, c'est pas. Il y a une résonance avec mon dernier livre sur l'empathie esthétique, puisque mon livre commence par 2001 et se finit par cette idée de renaissance, de résurrection. Et en voyant la vie, l'œuvre de David Bowie, commence à 19 ans avec Space Oddity, qui est vraiment une allusion à 2001, l'Odyssée de l'espace, au premier pas de l'homme sur la Lune. Vous savez que la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a fait couler beaucoup d'encre, on voit le vieux cosmonaute qui meurt et qui renaît sous la forme d'un fœtus qui retourne sur la Terre. Et la dernière composition de David Bowie, alors qu'il sait qu'il va mourir, il fait une chanson sur Lazare, qu'il appelle Lazarus, et qui était un message lors de la sortie du disque, les gens trouvaient obscur, et quand il meurt 3 jours après, tout paraît limpide. Si vous voyez, c'est la même idée de mettre. C'est vraiment l'exemple de l'artiste qui sait se métamorphoser toute sa vie, sa vie n'a été qu'une succession de renaissances, chaque fois avec des modifications de son style, qui est toujours un précurseur, et à la fin, de sa vie, il met en scène sa mort une dernière fois en livrant son œuvre au monde avec une grande élégance. Et ce qu'on sait moins, c'est que les bénéfices de son dernier disque vont à la recherche pour le cancer. Donc c'est quelqu'un d'élégant jusqu'au bout.
Finalement, vous nous dites ce qui compte fondamentalement, c'est un hymne à la création et une contribution personnelle de chacun à la création.
Oui, ça c'est la merveilleuse idée de l'école de Palo Alto. C'est les gens qui ont inventé justement la psychiatrie systémique. Enfin, ils avaient l'idée qu'en fait, on est des petits musiciens. Donc, on arrive dans un orchestre qui est déjà en train de jouer. On est avec notre petit instrument. On essaie de comprendre ce qui se passe, de se mêler à l'orchestre tout en apportant notre touche personnelle. Et puis, quand on s'en va, la petite musique qu'on a créée, elle a un peu modifié le grand orchestre. Et l'air va être pris par d'autres. Donc, c'est une belle analogie avec la vie. Et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à penser que quand il y avait une pathologie psychiatrique dans une famille, ça pouvait en partie être lié, enfin un état d'équilibre qui faisait que pour que la famille, le cercle se porte bien, il fallait qu'il y en ait un qui soit sacrifié. Donc ils ont eu l'idée, plutôt que de se concentrer sur le patient, se concentrer sur tout l'entourage pour arriver à un nouvel état d'équilibre qui n'inclut pas le sacrifice d'un des membres de la communauté.
Voilà, finalement, Pierre, je crois que pour arriver à cela, il faut s'autoriser à devenir le philosophe de son existence. Et quel que soit le point de départ, que ce soit une femme de ménage, Dieu qu'une femme de ménage peut être important dans une famille, un médecin ou autre, il faut s'autoriser à devenir le philosophe de son existence, c'est-à-dire tout simplement à partir de son vécu, à s'interroger sur ce que je vis, comment je le vis et comment je peux aller plus loin.
Voilà, c'est la seule façon de supporter, entre autres, l'idée de la mort, de l'accueillir sereinement après une vie en philosophie. La philosophie, c'est apprendre à mourir. Je crois que quelqu'un l'a dit avant moi.
Alors finalement, ceci nous prépare l'émission du 29 janvier. Que connaissons-nous de l'amour ? Effectivement, la philosophie n'est pertinente que si elle nous permet de découvrir, d'accueillir l'amour.
Oui, on pense à Mozart dans Figaro. Mais voyez que ça pétait. Mesdames, vous qui savez ce qu'est l'amour, dites-moi s'il est dans mon cœur, dites-moi ce que j'éprouve.
Comment terminer autrement ? Pierre, quand même, une dernière question. Si vous aviez un morceau de musique à rajouter à cette émission, lequel vous nous proposez ?
Alors, la musique, c'est tout à fait personnel. Donc moi, j'aurais tendance à vous donner Imagine de John Lennon. Pourquoi ? Parce que j'étais adolescent quand j'ai entendu ce morceau, ça comptait dans ma vie, ça fait partie de mes vêtements. Bon, bien sûr, après, il y a eu Mozart, il y a eu tout un tas d'autres musiciens, mais qui sont arrivés après, 20 ou 30 ans après. Imagine, c'est pas... Bon, le morceau est sympathique, etc., mais c'est une résonance avec... c'est la bande originale d'une partie de mon existence. Oui. C'est pour ça que ce morceau va encore me faire de l'effet. Et puis, c'est vraiment, vous savez, des fois, dans un tout petit morceau de variété, quelque chose de très simple, on a plein de frissons, on a des fois l'impression qu'il se dit plus de choses que dans un grand opéra.
Alors nous allons écouter ce morceau en se souvenant encore de là la résonance. Il y a la musique pour l'entretenir et que c'est une manière de dépasser la connaissance, la reconnaissance et d'aller plus loin. Finalement, il n'y a que les arts pour nous apporter ça, dont la musique.
Oui, et puis ça nous permet d'aller bien en amont du langage, donc ça nous transporte dans des zones qui sont inexprimables, l'ineffable, comme le disait Yankelevitch, quoi, la musique est l'ineffable.
Alors écoutons cet ineffable par le morceau de musique de Pierre. Merci Pierre, et au prochain livre, le quatrième je crois.
On va attendre un petit peu.
Pas trop longtemps. En tout cas, lisez les trois livres actuels, j'allais dire les quatre, parce que le quatrième est déjà en cours, mais les trois livres de Pierre, que je vais vous rappeler dans la note de synthèse qui accompagne cette émission. Merci.
Merci.
Voilà, nous allons donc écouter Imagine, choisi par Pierre. Je vous rappelle les premières phases. Imagine qu'il n'y a aucun paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, seulement le ciel. Imagine tous les gens vivant pour aujourd'hui. Comment ne pas penser à Verlaine qui disait de sa vie « Et je ne veux aucun autre paradis ». Chers auditeurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Que connaissons-nous de l'amour ?